Un nouveau choc pour la population française. Après « Il y a du cheval dans mon steak », nous découvrons qu'il y a des écouteurs dans nos téléphones. Valentin revient sur les origines du Front National. On attend avec impatience le moment où le parti s'avérera être de... diagonale. Superstition et politique. Il paraît que si je suis candidat Modem, je risque de perdre toutes les élections. Est-ce grave, docteur ? Une société chinoise vous propose de faire pleurer vos enfants en bas âge. Doudou est introuvable ? C'est parce qu'il passe du bon temps à Disney pendant que tu restes à la maison. Bienvenue sur Sans Langue de Bois. Jeunesse, jeunesse, vous n'êtes pas sans savoir que j'enregistre toutes mes créations et les diffuse sur YouTube afin de me faire repérer, au moins atteindre le million de viewers. Mais alors là, ça va trop loin. Les Américains ont écouté mes communications et je n'ai toujours pas trouvé le succès. Nous ouvrons notre premier segment, les parano avaient raison.
Bond. James Bond. My name is Bond.
My name is Bond. Bond.
Citoyens du monde libre, cette vidéo n'a comme but d'informer les gens. Faites attention sur Internet.
Qu'est-ce qu'il fiche, merde ? Merde, merde !
Alors comme ça, je me saigne, je gargarise tous les jours avec le bain de bouche de cet Américain fabuleux, le professeur Wen Yuanxi, bain de bouche qui protège contre les caries. Mes employés ne peuvent pas travailler à l'école parce que je les exploite. Et quoi ? On ne me laisse même pas mastiquer un noyau de la grande pomme ! Ce n'est pas de ma faute hein, si je suis née en France. Et à quelle époque ? Celle où le président pulvérise le record d'impopularité de la 5e République, selon le Nouvel Obs. C'est pas son téléphone à lui hein, qui va permettre de faire la une du Parisien. Se faire repérer en disant « allô » à la télé, c'est déjà fait. Alors, jeunesse, jeunesse, je vais vous dire ce qu'il faut dire pour défiler chez Jean-Paul Gaultier. Il... Ah, pardon, j'ai un appel. Al-Qaïda, bonjour. Mais non, ne quitte pas, Antoine. Oh, et puis zut. Voyez-vous, ce qui me fait le plus de peine dans tout ça, c'est que ce soit Merkel qui ait fait la une des couvertures cette semaine. Elle a même appelé le président le plus cool du monde, et puis pour se plaindre en plus. Oh là là, ach nein, on m'écoute depuis 2010, on me prend en photo, ich bin nicht contente. Allez quoi.
Mais tu la connaissais ma maman avant, pourtant elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là hein.
Pourquoi pas nous, hein ? On m'aurait prévenu plus tôt qu'il était possible de faire la une des journaux du Monde, Le Parisien, Le Figaro, avec une telle coupe de cheveux. Mais j'aurais commencé à apprendre l'allemand à l'école, pas l'espagnol. Allez, va, j'arrête de me plaindre. J'ai décidé de comprendre un peu comment ça marche, ce système d'espionnage, comme les pessimistes et les parano l'appellent. Qui avons-nous au bout du fil quand nous appelons notre famille le dimanche ? Le Prisme. Le Prisme est un programme de surveillance électronique américain créé afin d'écouter les communications en dehors du territoire américain. Qui gère cette opération de grande écoute ? Le fisc américain. Rien à voir avec notre fisc à nous qui fait pleurer les chaumières et les chômeurs. Le United States Foreign Intelligence Surveillance Court autorise explicitement les agences de renseignement à surveiller, pour une durée maximale d'une semaine, les appels téléphoniques, les courriels et autres moyens de communication des citoyens américains sans même un mandat de tribunal quand l'une des parties n'est pas sur le sol des États-Unis. Au fond, nous sommes un peu tous américains. la NSA dispose d'un accès direct aux données hébergées par les géants américains des nouvelles technologies, parmi lesquelles on trouve Google, Facebook, YouTube, Microsoft, Yahoo, Skype, AOL et Apple. En août 2013, le quotidien Le Guardian révèle que la NSA aurait versé en indemnisation plusieurs millions de dollars aux entreprises informatiques afin de certifier que la livraison des données concerne uniquement et uniquement les individus qui résident en dehors des États-Unis. Ces pratiques d'espionnage ne sont pas nouvelles. France 3 a expliqué cela très bien cette semaine au JT. Il a expliqué que Prism a été créé sous le mandat de Bush fils en 2007. Ces pratiques d'écoute entre alliés ont grossi sous Barack Obama. Le but de l'écoute, vous me demanderez ? Repérer d'éventuels terroristes menaçant les intérêts français. Ou bien dans une optique d'intelligence économique pour connaître les intentions d'une société stratégique étrangère. Rien de bien dangereux en soi. Comment cette histoire d'espionnage a-t-elle fait surface ? Eh bien, je ne voudrais pas me plaindre, mais ce sont des espions qui ont espionné les services secrets américains. Ces idéalistes, du fait ce que je dis pas ce que je fais, sont exilés en Angleterre et en Russie. Ils ont dévoilé au grand public le fait que nous étions écoutés. Je veux parler d'Edward Snowden, dont tout le monde a entendu parler, mais aussi de Julian Assange, dont tout le monde a oublié de parler ces derniers temps. Snowden a fait surgir dans nos médias l'existence de la NSC, National Security Agency. Et Assange... je me rappelle plus. Oui, bref, ces deux espions veulent nous faire croire que c'est dangereux d'être écoutés. Ils voudraient qu'idéalement nous cryptions, c'est-à-dire rendions illisibles nos communications et nos recherches sur Internet. Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas le temps de taper !G derrière chacune de mes recherches. Et puis, où se trouve le danger ? Le secrétaire des États-Unis, John Kerry, l'a lui-même dit lors d'une conférence, les services secrets ne recherchent que les terroristes. Je ne sais pas vous, mais personnellement, ça se voit au téléphone, je n'ai pas de barbe. Je suis, moi, rassurée que l'Amérique nous protège et même veille sur nous. C'est notre allié depuis 1944, notre collègue de l'OTAN, et puis... Que demandons-nous à un ami si ce n'est d'être présent et de nous prêter une oreille bienveillante à tout moment de l'année?
Hi, this is Barack Obama. How are you?
Ne vous inquiétez plus. À l'avenir, beaucoup moins de parano surgiront et affoleront les masses. Le journal Le Guardian assure que d'ici peu va sortir sur Internet le programme Riot, programme privé qui existe depuis 2 ans et qui a été créé par la compagnie Raytheon qui développe de l'armement. Riot sera bientôt en vente sur Internet, ce qui est rassurant parce que la qualité a toujours un prix. Riot est un programme qui permet non seulement de faire apparaître sur une carte tous les endroits depuis lesquels je me suis connectée sur Internet avec mon téléphone, mais également de voir toutes les photos que j'ai prises avec mon téléphone. Ce n'est pas merveilleux ? Mon futur employeur va pouvoir facilement voir que j'ai un profil idéal pour la radio. Riot va un peu remplacer pour moi les tirages de cartes de tarot sur Internet et la boule de billard 8 qui répond oui, non, peut-être à toutes mes questions, puisque Riot permettra de prédire l'avenir. Pourquoi payer 50 euros chez une vieille femme sénile qui dit voir les morts quand je peux gratuitement, avec Riot, poursuivre des analyses prédictives concernant mes prochains mouvements, hein ? Concernant ces affaires puantes d'espionnage, je dis oui, on n'est pas content. Si Obama est caricaturé dans le Cadavre enchaîné cette semaine comme un big brother par de l'ambre, c'est bien qu'il fait naître des talents dans un show de télé-réalité, pas parce qu'il est un monstre comme tous les paranos veulent nous le faire croire. Kerry s'excuse de nous avoir écoutés. Il estime être allé trop loin. Mais bon Dieu, remue-toi un peu, François. Mais vends-leur mes appels téléphoniques, et puis mes émissions, avant que je ne finisse dans les cercles maudits et déplorables de l'oubli. Laisse-moi trouver du travail. Vendons-leur nos écoutes. Ah, pardon, je viens de recevoir une alerte info. La France aurait autrefois signé un accord d'échange d'informations avec les Five Eyes, un ensemble qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Australie. Ce partenariat entre la France et ces pays aurait le nom de code LUSTRE. Bon, c'est moins lumineux que Prism, hein ? Donc, on donne déjà nos informations au LUSTRE ? J'y comprends plus rien, moi. Ben en tout cas, moi je suis d'accord avec Washington. Il serait malheureux que ces questions d'espionnage nous détournent de notre objectif commun de négocier un accord de grande qualité et de libre-échange pour le 21e siècle. Après tout, moi j'ai envie de devenir la prochaine star du Big Brother, pas vous ?
Chez nous, un jour, emmène-moi.
Certains vous diront que si François Bayrou a perdu de très nombreuses élections, c'est la faute à pas de chance. Antoine, tu vas nous parler de la superstition politique. Antoine.
Chut, chut, chut. Je suis en pleine invocation d'esprit. Non, ne me prenez pas pour un fou. Non, j'ai vu que c'était un truc à la mode en Thaïlande. Vous savez, là-bas, on est tellement superstitieux que les dirigeants politiques eux-mêmes font appel à des devins et à des astrologues pour prendre des décisions. Véridique, je l'ai lu hier dans le journal. Et quand le pays va mal, qu'il y a un accident de train ou d'avion, on dit que c'est le fait d'esprits malveillants. Alors bon, je sais pas vous, mais moi, j'invoque les esprits. Parce que, réfléchissons un peu. C'est quand même beaucoup plus logique comme ça. Vous vous souvenez du train Paris-Limoges qui a déraillé à Brétigny-sur-Orge ? Terrible accident. Mais qui est vraiment responsable ? La SNCF, dont les installations seraient vétustes ? Oh, c'est pas le genre, enfin. Un conducteur bourré ? Oh, pas en France, l'alcoolisme est si rare. Non, je ne vois qu'une seule solution. Un mauvais esprit coincé dans le train a tout fait dérailler. Logique et implacable. Et puis, vous savez, les esprits, après tout, ce sont des gens comme vous et moi. Qu'auriez-vous fait à sa place quand un haut-parleur gris et terne vous annonce depuis la gare que vous êtes en direction de Limoges pour y passer toute votre éternité spirituelle ? Bon, je ne cautionne pas, mais je comprends, c'est tout. Et puis, il ne faut pas les contrarier. Et une fois qu'on a compris tout ça, tout devient limpide. Comment un président comme François Hollande peut être aussi impopulaire ? Serait-ce parce qu'il a le charisme d'un tabouret ? Non, non. Parce qu'il est au talent politique ce que Plus belle la vie est au cinéma ? Non plus. Parce qu'il a tenu autant de ses promesses qu'il y a de cheveux sur le crâne de Cadmérade et que ses ministres ont fait autant de boulettes qu'il y a de fautes de grammaire dans les propos de Franck Ribéry ? Non, vous avez tout faux, vous n'y connaissez rien. C'est de la faute des FIPOB, je vous dis. Oui, les FIPOB, vous savez, ces fantômes dévoreurs de chair humaine qu'on trouve en Thaïlande. Bah, c'est bien ce que je me disais, vous n'y connaissez rien. Pour que les sondages de Hollande soient si bas, c'est forcément que des esprits malveillants de ce genre traînent un peu partout autour de l'Élysée. Et puis pas seulement autour de l'Élysée, regardez en Bretagne. Des gens ne peuvent quand même pas décemment et par milliers se mettre un bonnet rouge sur la tête pour payer moins d'impôts. Mais ça n'a aucun sens, enfin. Est-ce que Bernard Tapie a dû se pavaner sur les autoroutes revêtu d'un sombrero pour avoir des cadeaux fiscaux ? Est-ce que Jérôme Cahuzac, lui, s'est pavané déguisé en commandant Cousteau pour planquer son argent en Suisse ? S'il vous plaît, soyons sérieux. Non, c'est simplement que les Bretons sont possédés par des esprits maléfiques, voilà tout. Ça arrive à tout le monde, et puis bon, il n'y a pas de quoi avoir honte. Alors, je sais pas vous, mais moi, pour la Bretagne, la croissance, le chômage, j'invoque les esprits. Je tente de convaincre les bons et d'apaiser les mauvais. Et vous verrez, quand la croissance reviendra, qui c'est qui aura eu raison ? Alors, en attendant, faites moins de bruit. Chut, j'invoque les esprits. Et vous, faites comme moi. Mais surtout, surtout, ne m'écoutez pas trop.
Look like an angel,
move like an angel,
walk like an angel,
walk like an angel,
talk like an angel,
but I got wise.
You're the devil in disguise, oh yes you are.
Nous ouvrons une page d'histoire avec Valentin. Nous avions découvert dans l'émission précédente les origines premières du parti du Front National. Voici le second volet.
Bonjour Mélissa et bonjour à vous, jeunesse et jeunesse. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à mettre les mains dans le cambouis, les pieds dans le plat, à prendre une douche et à vous asseoir confortablement. La chronique de la semaine passée n'était qu'un échauffement. Le royalisme, le bonapartisme et le boulangisme ne sont en effet que de vagues contours du FN que nous connaissons aujourd'hui. Vous verrez qu'à la fin de cette chronique, nous aurons déjà un dessin beaucoup plus net de l'extrême droite. Alors certes, pas encore le genre de dessin qu'un petit vieux atteint d'un Parkinson puisse colorier sans dépasser, mais on va s'en rapprocher. Nous nous sommes donc arrêtés pendant la Troisième République en 1890, après l'échec relatif du boulangisme. Je précise relatif parce que le général n'a pas seulement laissé des bouts de cervelle sur la tombe de sa maîtresse. Non, Il a aussi beaucoup œuvré pour l'instauration d'une législation plus favorable aux salariés et ouvriers et a fait beaucoup pour la réorganisation de l'armée. Le droit de posséder une fourchette, par exemple. Continuons notre voyage initiatique. Le contexte est difficile, explosif et tendu à tout niveau.
T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout.
Politiquement, la France se cherche. Roi ou président ? Socialement, les ouvriers réclament des droits. Les cons ! Et le contexte extérieur est on ne peut plus mauvais, puisque la France est menacée d'invasion par ses voisins européens. Chacune des mouvances d'extrême droite naissant d'une opposition à une réalité sociale et politique, vous ne serez pas étonné de savoir que ce contexte houleux a donné naissance à deux des plus grandes mouvances d'extrême droite de l'histoire. Après la crise du Panama, un nouveau scandale, d'une portée beaucoup plus grande, éclate et il va sceller ces deux mouvances dans la vie politique et sociétale française. Ce scandale, c'est l'affaire Dreyfus. Vous vous souvenez tous de cette histoire du militaire juif accusé de trahison au profit de l'Allemagne, du J'accuse de Zola qui met le feu aux poudres et des repas de famille gâchés par les disputes entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, allant parfois jusqu'à se jeter au visage les bons petits plats de mémé. Que ce soit dans la presse, dans les rues, dans l'armée ou même à l'Assemblée, ces deux mouvances sont partout. Et elles se font à chaque apparition un peu plus virulentes ou plus violentes. La première incarne encore aujourd'hui le mal absolu. Celui qui fait que personne ne peut prétendre qu'avoir une raie sur le côté et une petite moustache au carré, c'est swag. Pire que le sexisme, pire que le racisme, pire que tous les autres mots en « isme », je veux bien sûr parler de l'antisémitisme. Alors, l'antisémitisme, c'est quoi ? Et ça vient d'où ? Eh bien, l'on s'accorde à y trouver trois points d'ancrage. Le premier est religieux. La France est d'origine chrétienne et même si personne ne croit en Dieu et que l'on ne va pas à l'église, on y est attaché. Le retour à l'ordre moral mis en place par le gouvernement de MacMahon a d'ailleurs insufflé une nouvelle poussée au christianisme français. Le rejet et la stigmatisation des juifs a donc une première origine et elle est religieuse. La seconde source est intimement liée à la poussée sociale de l'époque. La religion juive était alors assimilée au capitalisme, et le mythe de la banque Rothschild en est d'ailleurs un exemple très parlant. Vous savez, cette banque qui étendait ses tentacules sur l'Europe entière pour accaparer ses richesses. Bah ! Et enfin, troisième point, le 19e siècle est le berceau du racisme comme science. Nombreuses sont alors les études physiologiques et comportementales sur les différentes races. Les œuvres de Gobineau et de Drummond sont d'excellents et terrifiants miroirs de cette obsession que l'on avait à l'époque pour les races.
Oh oui, mais sur toi t'es différent, ça y a qu'à te regarder, il n'y a pas de problème.
Hein. Pourquoi je suis différent, c'est-à-dire quoi?
T'as très bien compris ce que je voulais dire. Hein.
Attends, vas-y, répète là.
J'ai pas entendu, j'ai mal entendu.
Non, t'as très bien compris ce que tu étais différent. Oui, non.
L'antisémitisme est donc solidement ancré dans notre société française. La défaite traumatisante de la guerre de 1870 contre l'Allemagne est encore dans tous les esprits. Il n'en faut pas plus pour attiser la flamme nationaliste qui se soulève un peu partout. Un deuxième courant est né. La défense de la nation, la préférence nationale et un repli communautaire en sont les principaux fers de lance.
Et l'on s'en fout, à bas la République, et l'on s'en fout, la gueuse et de ses voyous.
Ce sentiment nationaliste est encore accentué par la montée en puissance de l'Allemagne, Bismarck ayant réussi à unifier les pays allemands et à annexer l'Alsace-Lorraine. Puis, c'est dans ce contexte que les tensions glissent petit à petit vers un conflit armé, vers une guerre totale. C'est la Première Guerre mondiale. L'extrême droite est alors assez peu unifiée, presque éparse. Et malgré des idées souvent communes, elle est organisée en ligues distinctes. Non, la Ligue 1 et la Ligue 2 n'ont rien à voir avec ça. Quoique. Arrêtons-nous là. À peine le temps de digérer l'émission, que nous serons déjà de retour.
Pour vous jouer un mauvais tour!
Afin de protéger le monde de la dévastation!
Afin de rallier tous les peuples à notre nation!
Pardon, j'ai déconné. Ces histoires de race, tout ça, j'ai pété un câble. Allez, il est temps que j'y aille. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas, d'ici là, mangez des bananes.
Notre chroniqueur de talent, Robin, étant en train de siroter un cocktail les doigts de pied massés dans un bassin par des nounours, nous assurons ce soir le billet WTF de ces derniers jours. Et si on se débarrassait de nounours pour quelque temps ? Grâce à purebreak.com, vos nounours visitent le Japon, mangent ensemble des pancakes avec leur tube digestif de nounours et dorment à 7 sous une couverture. Les animaux, qui partagent selon moi beaucoup, ont été envoyés en vacances par leur propriétaire qui paye la modique somme de 35€ par voyage. Au Japon, une agence de voyage pour peluches, Unagi Travel, une agence un peu particulière quand même, organise en effet des séjours pour les hippies, pour les nounours. Les parents peuvent suivre les aventures des petits compagnons via la page Facebook de l'agence de Sanoo Azuma, qui, à la manière du nain de jardin d'Amélie Poulain, poste des photos des nounours pendant leur visite touristique ou le soir au coucher. De quoi briser le cœur de vos enfants qui non seulement vont apprendre la mère réalité de devoir dormir sans nounours, comme un adulte dur et vrai, mais apprendront également le partage, et ce de la meilleure manière qu'il soit, en payant des vacances à un autre pendant que eux seront coincés à l'école.
C'est quoi qui va pas, mon bébé ? C'est quoi qui va pas ? C'est quoi qui va pas, bébé ?
En 3 ans d'existence, Unagi Travel a déjà fait voyager plus de 200 peluches, soit des voyages payés à environ 1 600€ pour les accompagnateurs de nounours. Si l'on ne détruit pas, bien sûr, le coût de vie de nounours, à savoir du caviar, du champagne, du saumon.
1, 2, 3.
Dans un style plus franco-français, suivez les voyages de Nounours. Décidément, le prénom reste célèbre chaque année sur le blog de vacances de Mideco. Vous pourrez suivre Nounours dans tous ses déplacements et même le voir prendre une petite pause goûter pour déguster des bugnes. Vous pourrez également participer aux commentaires. Nous avons relevé 2 commentaires bons enfants. Merci Nounours, bravo, tu es un super reporter, posté par Gilline, lundi 29 juillet 2013. Ou encore, ah, il a dû bien être contente de son voyage, bisous, posté par Gâteux Rigolo, également le lundi 29 juillet 2013.
Hold on to your seats.
Les pigeons voyageurs belges, dont les champions de vitesse valent plusieurs centaines de milliers d'euros, n'échappent pas au dopage. 6 d'entre eux viennent d'être contrôlés positifs, dont un à la cocaïne, a rapporté jeudi la presse belge. Je ne sais pas laquelle de ces 6 informations est la plus surréaliste, j'en suis encore à imaginer à quoi ressemble le podium lors de la course des pigeons. Alors que les tests effectués en Belgique sur les mêmes échantillons n'avaient rien révélé, le laboratoire sud-africain a découvert des traces de produits interdits différents dans 6 d'entre eux. Cocaïne pour l'un, un antidouleur et antifièvre pour un autre, précisent les 2 journaux néerlandophones. J'en déduis que les pigeons passent par l'Afrique durant la compétition ? La colombophilie, tradition en Belgique, a connu un essor économique exceptionnel ces dernières années avec l'arrivée sur le marché de riches collectionneurs chinois. En mai, l'un d'entre eux a déboursé 310 000 euros pour s'offrir Bolt, le dernier champion issu des pigeonniers belges. Les pigeons voyageurs se collectionneraient donc. Cette arrivée massive d'argent entraîne aussi des dérives. Vol dans les étalages, raquettes par des intermédiaires sans scrupules et donc dopage. Ce phénomène du dopage n'est toutefois pas vraiment neuf. En 2003, l'ancien champion du monde cycliste Johan Museeuw avait été convaincu d'usage de produits interdits à l'issue d'une enquête partie de soupçons de trafic d'hormones dans les milieux agricoles, dans le peloton cycliste, les courses de chevaux et de pigeons.
Hold on to your seats.
Serge Lama dans le tramway et au cirque. Une information par tv5monde.fr. Le directeur du cirque, propriétaire de Serge le Lama, qui a défrayé la chronique après une escapade insolite dans le tramway de Bordeaux, a retiré la plainte visant les jeunes qu'il avait enlevés, a-t-il indiqué à AFP. S'il y avait eu des dégradations en ville à cause du Lama, il fallait que je sois couvert. Mais vu qu'il n'y a eu aucune dégradation, j'ai retiré ma plainte, a expliqué Jean Beautour, à la tête de ce cirque familial qui a connu une notoriété soudaine après le rapt de son lama jeudi à l'aube par 5 jeunes éméchés qui ont réussi à lui faire prendre le tramway. Monsieur Beautour a reconnu qu'il avait eu plus de monde que d'habitude ces derniers jours pour son spectacle grâce à cette histoire. Il va rencontrer les 5 jeunes gens cette semaine pour dialoguer et clore cette histoire qui se termine bien. Ces jeunes, je n'ai rien contre eux, a-t-il assuré. Serge, un lama de 8 ans, toujours en phase de dressage, reprendra ses activités à partir de lundi, a précisé son propriétaire, M. Beautour. On va commencer à le remettre sur la piste, a-t-il expliqué, en disant réfléchir à faire de l'animal une prochaine tête d'affiche. Photos de l'équipée de l'animal relayées sur Twitter, page Facebook, photomontage cocasse, l'aventure de Camélidée a rapidement fait la joie des internautes et l'animal est devenu en quelques jours une star des réseaux sociaux. Mon invité ce soir n'est autre qu'Emmanuel Debono. Je sais enfin ce que ça fait que de tutoyer le représentant de l'association Spielberg en France. Emmanuel Debono, bonjour.
Bonjour.
Donc tu es historien et tu es chargé d'études à l'Institut français de l'éducation et également au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, deux entités donc de l'école normale supérieure. Et si nous nous rencontrons actuellement, c'est pour parler d'un projet de recherche que tu mènes actuellement avec Gérard Folliot et Jean-Luc Pinol, professeur d'histoire contemporaine à l'UNS. Alors qu'est-ce que Tétrade, un nom mystérieux pour un projet mystérieux qui occupe beaucoup de ton temps actuel?
Alors oui, Tétrade, c'est tout simplement l'acronyme de territoire et trajectoire des déportés juifs de France entre 1942 et 1944. Et c'est un projet de cartographie numérique. Alors il n'est pas si mystérieux que ça, puisque une partie du projet est déjà en ligne depuis quelques mois, puisque Jean-Luc Pinol, l'initiateur du projet, donc historien de la ville, avait déjà mis en ligne effectivement une carte avec Gérard Folliot qui s'occupe du développement technique du projet où figurent tous les enfants arrêtés à Paris donc entre 42 et 44.
Très bien, alors est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de cette carte? Qu'est-ce qu'on voit dessus? Comment alors, est-ce qu'on peut effectuer des recherches?
On voit effectivement alors une carte avec des petits points rouges plus ou moins grands qui sont donc ces figurés représentent tout simplement des juifs arrêtés à cette époque-là en France, puisque là je parle vraiment donc le projet maintenant concerne la France entière. Depuis effectivement cette première carte, une deuxième carte a été élaborée où figurent donc les 11 400 enfants déportés à cette époque-là. Et il viendra ensuite une carte où figureront la totalité des juifs de France, donc 76 000 juifs déportés sur la période. Donc pour l'instant, on a non pas 11 400 points, mais des points qui vont représenter effectivement une ou plusieurs personnes qui ont été arrêtées. Alors si on prend à l'échelle, quand on a une carte où on voit la France entière, on va avoir des points qui sont assez gros par endroit. Et plus on va effectivement entrer dans la carte, avec donc les outils du web mapping, enfin, plus on va zoomer, plus ces points en fait, vont se fractionner pour arriver à un degré de précision assez important. Alors si on prend certains cas des grandes villes françaises comme Paris, Lyon, Bordeaux, Nice ou Marseille, on va avoir donc des personnes qui ont été véritablement localisées avec des adresses précises. Alors parfois une personne ou ça peut être une famille, trois enfants qui ont été arrêtés. Alors d'un point de vue méthodologique, ce sont des informations qui sous-tendent en fait cette représentation cartographique. Ce sont des informations qui ont été rassemblées dans l'immense travail de Serge Klarsfeld, oui. Le célèbre avocat historien, qui a pu aller de différentes sources constituer les dernières adresses des Juifs au moment de leur arrestation.
D'accord. En fait,
voilà, qui sont souvent les adresses où ils ont été précisément arrêtés. Pas systématiquement, mais dans la plupart des cas.
Ma maman avait l'habitude dans les années 90 de me lire L'île au trésor de Stevenson, écrit en 1883, dans lequel il était déjà question de cartes. Donc selon moi, le premier pirate a créé la première carte, et le premier pirate est actuellement très très vieux. En quoi une carte constitue-t-elle une révolution dans la recherche historique ?
Tout d'abord, cette carte s'inscrit dans un courant actuel des sciences humaines qu'on appelle les digital humanities, c'est-à-dire en fait les sciences humaines numériques appliquées aux sciences humaines, et plus spécialement spatial humanities, qui consiste effectivement à réétudier, revoir certains phénomènes, certains événements à la lueur de des représentations cartographiques. Et cette carte, précisément dans ce qui nous intéresse ici, a au moins deux utilités, celle d'abord de pouvoir visualiser clairement à l'écran des choses qu'on savait déjà, mais qui de fait enfin, du fait qu'on les voit à l'écran deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus parlantes, édifiantes. Et puis, d'autre part, de faire éventuellement apparaître des phénomènes nouveaux. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir effectivement clairement voir à l'écran des phénomènes de concentration de population, ou au contraire des zones de vide. On va pouvoir croiser cette première carte de faisant apparaître en fait des personnes arrêtées avec d'autres cartes, carte de la résistance, carte des justes, carte des personnes cachées, si on réussit à produire ce type de carte, pour mettre en confrontation, pour si vous voulez relier en fait ces différentes cartes entre elles et en tirer certains enseignements, certaines problématiques.
Que se passe-t-il si nous nous rendons au 89 rue de Marseille à cette époque-là ?
Alors, on a effectivement plusieurs façons d'accéder à la formation. On peut effectivement donc promener la souris sur la carte et faire apparaître une infobulle qui mentionne que si on clique, on aura accès à une liste d'enfants. Donc la liste va apparaître à l'écran, on aura le nom de l'enfant, son prénom, son âge et le lieu où il a été arrêté. Ou bien donc on a le chemin inverse où on va pouvoir enseigner soit une adresse mm-hmm. ou le nom de la personne directement. Donc si on va effectivement au 89 rue de Marseille à Lyon, on va effectivement trouver une personne. Alors si je tape Robert Weissmann, voilà, j'ai une réponse, donc 14 ans. Donc Robert Weissmann est né en mai 1930, ça je le sais parce que je connais aussi le personnage par ailleurs, il est toujours vivant, il a 83 ans. Et effectivement, on voit sur la carte de Lyon, donc la carte, on a le réseau urbain, etc., on voit effectivement un petit carré bleu qui s'affiche, qui en fait figure vraiment la personne qui nous intéresse. Et alors ce qui est intéressant, une fois qu'on a effectivement localisé Weissmann, donc là pour le coup on a la formation, je dirais, on cherche quelqu'un, on a une réponse, donc c'est intéressant pour si on a un nom en tête, si on est un descendant de la famille, après c'est aussi intéressant d'aller un petit peu au-delà de ça et de éventuellement, et c'est partie du projet, d'indexer des documents. Indexer des documents, ça peut vouloir dire dans le cas de Robert Weissmann, justement analyser son parcours, si on a son récit. Donc beaucoup de rescapés ont effectivement raconté leur histoire. On a aussi des documents d'archives, hein. Je sais que Robert Weissmann a été passé par le fort de Montluc. On a sa fiche d'internement, on peut aussi mettre des documents sur Montluc lui-même, en l'occurrence il a témoigné, il a donné son témoignage à la fondation Spielberg à Los Angeles, et on a par exemple le récit de son arrestation. Donc il raconte pendant quelques minutes comment, avec son père, il s'est fait cueillir par la Gestapo. Il faut dire que en fait, la rue de Marseille, c'est vraiment juste à côté de la Gestapo. Et c'est au moment où ils partaient de Lyon. C'est au moment où ils ont cherché à s'enfuir, ils se sont fait arrêter. Quelques jours plus tard, son immeuble d'ailleurs a été bombardé. Et il le dit d'ailleurs dans son témoignage, finalement, il a survécu, difficilement, mais il a survécu.
Tu avais des projets par rapport à l'ENS et à l'association Spielberg.
Alors oui, cette fondation Spielberg qui a été donc fondée dans les années 90 après le film de La liste de Schindler, elle a été en fait fondée pour recueillir des témoignages en quantité à travers le monde, et c'est ce qui a été fait donc au cours de cette décennie, et ce qui a abouti en fait à l'accumulation de près de 52 000 témoignages recueillis dans 56 pays différents, dans 36 langues différentes, et tous ces témoignages ont été en fait numérisés et indexés à la minute, c'est-à-dire qu'on a plusieurs dizaines de milliers de mots-clés qui permettent d'interroger, de naviguer dans la collection. Et on peut y accéder en tapant des noms, on peut y accéder par des localisations géographiques, et on peut effectivement, il y a toute une arborescence avec des sujets les plus divers qui peuvent être utilisés à la fois par des chercheurs ou des personnes qui s'intéressent bien sûr à l'histoire, mais aussi à la psychologie, à la philosophie, à la musique, hein. Il y a beaucoup d'entrées sur la musique dans le ghetto, l'orchestre dans les camps, et c'est vrai que dans ces témoignages qui sont très très qui durent environ 2 heures et qui prennent toute la vie du rescapé, qui raconte sa jeunesse jusqu'à sa vie, en fait, au moment où l'interview a été faite. On a des choses vraiment très intéressantes, hein, et parfois une personne sort un violon ou se met à chanter une chanson, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, voilà, les sujets sont très très divers, on n'est pas obligé de vraiment focaliser strictement sur la Shoah. On peut parler aussi de la vie politique dans les années 30, on peut parler du Shtetl en Pologne, puisque beaucoup en fait voilà, sont des immigrés. Alors, on a 1900 témoignages en français. D'ailleurs, il n'y a pas uniquement des témoignages de rescapés juifs, on a également des témoignages de tziganes, des témoignages d'homosexuels, de survivants de la politique eugéniste du Reich. On a des témoignages de libérateurs des camps, de personnes qui ont participé au grand procès des criminels de guerre, etc. Et puis des témoignages également qui sont en train d'être ajoutés, notamment de. On fait un grand saut dans le temps, de rescapés Tutsi, hein, des génocides de Rwanda. Et dans 2 ans, on aura également l'adjonction de 400 témoignages de rescapés du génocide arménien qui ont été captés dans les années 70 et qui, pareil, vont être numérisés, indexés, etc. Donc il y a cette perspective de faire aussi du comparatisme entre ces différents crimes de masse. Et donc le lien avec l'ENS, c'est quoi? Bah, tout simplement qu'on essaie d'ouvrir un accès à ces archives sur le site de l'ENS. C'est un peu compliqué parce qu'il faut il y a des considérations techniques, mais il y a aussi une question d'abonnement, donc il y a un gros projet à monter avec des financeurs, etc., pour que dans le plus tôt possible, hein, peut-être dans 6 mois j'espère, les élèves de l'ENS mais aussi les enseignants, les chercheurs puissent puiser dans cette source extrêmement riche d'archives sonores et visuel, puisque en fait à la fin de chaque témoignage, les personnes présentent des documents, les commentent, et c'est vraiment tout à fait passionnant.
D'accord, ce serait ouvert également au grand public? Ça se passera dans la bibliothèque, il me semble.
On est en discussion avec les bibliothèques, on espère que ça pourra se faire dans la bibliothèque d'Hydro, et bien sûr ce serait ouvrir en public, et surtout on éviterait de laisser les lecteurs tout seuls face à cette masse documentaire. Il y aurait des séances de formation pour l'utilisation de l'outil qui est quand même un outil extrêmement technique, extrêmement performant pour entrer vraiment pour pas se perdre il y a environ 105 000 heures de témoignages, mais on peut vraiment trouver exactement ce qu'on veut, hein. Si on s'intéresse, par exemple, on veut avoir une femme bulgare qui parle de la marche de la mort en janvier 45, qui parle de ses semelles, par exemple, de ses pieds, on aura des réponses, hein. Donc voilà, il y a un moteur de recherche qui est extrêmement perfectionné, mais qui demande quand même à être un petit peu explicité.
Très bien, et bien écoutez, merci beaucoup Emmanuel de Baudot.
Merci.
Et puis ben, sans doute à une prochaine fois, on va suivre cet événement et puis on se retrouvera le jour où ce sera mis en place.
Avec plaisir. Merci Lisa.
Sans langue de bois, ferme sa bouche pour le moment et vous retrouve dans 2 semaines. D'ici là, nous vous invitons à commander une pizza auprès de la DGSE. Vous l'avez bien mérité, voilà votre Feng Shui sonore.
And true progress requires constant work and peace and progress. They require allies who will listen to each other, learn from each other, and most of all, trust each other.